Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale. Nous sommes en direct ici à l'hôtel du département à Versailles pour parler de l'Office foncier solidaire, l'OFS des Yvelines. C'est une matinale que nous allons consacrer à ce type d'opérations, justement des opérations qui permettent aux Français d'avoir accès au logement dans des conditions que l'on va définir ensemble, et on va essayer d'évoquer les sujets autour justement de cette matinale qui a lieu au moment où je vous parle. J'ai le plaisir d'accueillir, pour démarrer cette matinale, Olivier Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Viroflay et vous êtes également le président de l'OFS 78, l'OFS des Yvelines. J'ai envie de vous poser une question, puisque vous êtes un élu local très ancré dans votre territoire. Ça fait 3 ans à peu près que l'OFS a été créé. Il a été créé en juin 2021. J'ai envie de vous demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les Yvelines.
Alors, l'OFS a connu un démarrage assez assez fort parce que c'était il y avait un besoin, donc clairement cette OFS a été créée à l'initiative du président du conseil départemental, donc Pierre Bédier, et de l'ensemble de l'assemblée départementale évidemment, et donc c'est parti assez fort parce qu'il y avait aussi des opportunités à la fois immobilières, mais également législatives, qui faisaient que le BRS, donc qui est porté par les OFS, en fait, est aussi intégré dans la loi SRU. Donc, ce qui fait qu'il y avait un bel engouement, et en plus, il y avait une montée à l'époque, une montée des prix de l'immobilier qui avait été extrêmement importante. Donc donc c'est un gros départ. En termes de chiffres, en fait, quelques chiffres pour vous donner un peu la façon dont le développement a pu se faire. Nous en sommes à près de 600 logements qui sont engagés, donc c'est 587 me semble-t-il, sur une trentaine d'opérations, dont certaines sont maintenant déjà livrées, vous voyez, moins de 3 ans après la création, donc c'est plutôt une bonne opération. Donc il y en a deux qui ont été inaugurées, une à les voisins de Bretonneux et une à Viroflay, je suis assez fier d'ailleurs. Et les autres sont soit en cours de livraison, en fait, là, d'ici fin 2024, soit en cours de construction, soit elles sont engagées, mais pas encore construites. Donc ça va s'opérer comme ça dans le temps, dans les 2-3 ans à venir. On va avoir un pic de livraison dans les 2-3 ans à venir.
Alors, on le sait bien, hein, l'accès au logement et la crise du logement en France est un pays... avec un pays qui a des règles très strictes, très, très, très importantes, notamment sur le plan normatif, sur le plan de la transition écologique et environnementale, sur l'impact finalement urbain, et pourtant, avec la démographie, le besoin de logement est vraiment très important, et les prix augmentent, les prix des matières premières, l'accès au foncier, et la création des OFS... et des outils comme le BRS, on va en parler, le bail réel et solidaire, permettent aux élus locaux de répondre à cette demande qui est presque une injonction des personnes et des administrés qui viennent dans votre bonne commune de Viroflay, où il fait bon vivre. De votre point de vue, pour vous, aujourd'hui, avec le recul que vous avez, avec le pilotage de l'OFS, le bail réel et solidaire, est-ce qu'il porte aujourd'hui les espérances d'un accès au logement à des prix maîtrisés ?
Alors, pas tout seul. Il le fait effectivement, mais il n'est pas tout seul. Donc, et tout le monde ne pourra pas non plus accéder à la propriété, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais en fait, néanmoins, il vient compléter l'offre de logement. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'injonction en fait de la population. C'est aussi une injonction de l'État,
hein, bien sûr,
qui nous demande par la loi SRU, mais pas uniquement de construire du logement social, de construire aussi du logement. En accession, en fait, et donc on est coincé entre deux feux, et on a aussi notre volonté de pouvoir le développer. Alors il se trouve qu'effectivement on a besoin d'avoir toute la panoplie possible dans l'ensemble de nos communes, toute la panoplie possible du logement très social pour les personnes en fait qui sont vraiment dans la plus grande difficulté financière, jusqu'au logement, j'allais dire de très belle qualité, et là en fait toute cette panoplie, il manquait cette brique en quelque sorte, de l'accession sociale. Ça existait, en fait, par du PSLA, mais
oui,
c'était
sûr.
Pas possible dans toutes les communes, en fait, notamment les communes carencées ou en déficitaire de la loi SRU. C'était pas possible parce que, en plus, le PSLA ne compte pas dans la loi SRU. Donc il y a eu aussi cette dimension. Donc je trouve que c'était une bonne idée en fait qu'ont eu les législateurs sur la création de ce BRS. Donc voilà, c'est une bride de plus qui complète l'ensemble de la chaîne, je pense.
Et finalement, les OFS, c'est finalement une bonne démarche. Et vous l'avez rappelé, vous avez raison de le rappeler, Olivier Lebrun, que ça complète finalement l'arsenal des dispositifs d'accès au logement des Français, qui est un vrai sujet, hein, un vrai sujet en soi, puisque la précarité de l'accès au logement ne cesse de se dégrader dans notre pays. Et vous, les élus locaux, vous êtes aux premières loges, si on peut dire, des administrés. Je ne vais pas reprendre la phrase de Gérard Larcher en disant qu'on est à portée de baffe des administrés, mais il est vrai que votre fonction d'élu local est majeure. Alors, on l'a vu, vous avez évoqué la loi SRU. Est-ce que la loi SRU, pour vous, elle est suffisamment structurée pour permettre des dispositifs aux élus locaux d'aller vers un meilleur accès au logement et surtout vers une meilleure mixité sociale? C'est un vrai sujet. Je sais qu'on vous la pose très régulièrement, cette question. C'est même la question cruciale entre les différentes municipalités, celles qui sont carencées, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont un pourcentage de logements sociaux plus élevé que la moyenne. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a combien de temps? On a 2 heures là devant nous.
Oui. Non, d'accord. Vous avez tout le temps qu'il faut. C'est tellement un sujet d'importance que vous êtes, les élus locaux, les seuls à même de décrypter cette actualité.
Oui. En fait, la loi SRU existe depuis les années 2000, en fait, début des années 2000. Elle a presque 25 ans d'existence, donc et je pense qu'elle était nécessaire. En fait, il était nécessaire de faire une loi pour permettre de développer le logement social. Mais je pense que ces modalités sont contestables. Ces modalités de mise en œuvre, de calcul, sont contestables. Je ne vais pas vous faire une démonstration. Je l'ai faite au préfet des Yvelines la semaine dernière, qui est venu sur Viroflay, en lui disant que c'était quelque chose qui était, en fait, on est comme un horizon. En fait, vous savez, l'horizon, il n'est pas atteignable. On l'atteint jamais.
Oui,
et là, quand on sépare la loi SRU, sauf certaines communes en fait qui n'étaient pas très éloignées, mais en fait c'est difficilement atteignable parce que elle se base sur 25% des résidences principales. Or, le logement social fait partie des résidences principales. Donc, quand il manque 500 logements comme à Viroflay, ces 500 logements, si on construit, il faut en construire 25% de plus. Et donc, en fait, de 500 logements, on passe à 700 à construire si on ne fait que ça.
Bien
donc,
sûr.
En fait, les modèles de calcul sont complètement absurdes. Mais c'est nécessaire pour à la fois contraindre aussi un petit peu aussi les élus à le faire, et puis aussi rappeler aux habitants que c'est important de pouvoir loger de façon durable et confortable toute la population. Et ça, c'est pas forcément toujours très simple, parce que vous savez très bien, en fait, dans un certain nombre de villes, construire, c'est souvent assez mal vu. Hein, l'aura du maire bâtisseur a disparu complètement. Maintenant, on est plutôt sur le maire bétonneur, et donc et oui. C'est beaucoup moins.
D'ailleurs, le vieil adage qui dit maire bâtisseur, maire vaincu, parfois persiste malgré le fait que il y ait certains élus qui ont été des maires bâtisseurs et constamment réélus. Je pense au maire de Dijon, François Rebsamen, qui a littéralement transformé sa ville. Effectivement, c'est un vrai sujet. Surtout que là, bien sûr, en 2025, on va rentrer en campagne électorale pour les municipales de 2026.
Bien.
Voilà, je rappelle que vous êtes aux affaires, d'ailleurs, à la mairie de Viroflay depuis 2005. Et vous êtes très, très engagé en politique, bien évidemment. Alors, je fais un peu appel à l'expert comptable quand il se rend compte que vous êtes aussi, puisque vous êtes dans des rigueurs budgétaires, parfois obligés finalement, puisque on le voit, hein, l'État, avec la baisse des dotations, vous met parfois dans des situations un peu complexes. Justement, on va évoquer, on voit bien que les OFS, et c'est bien l'objectif de cette matinale, a rempli finalement toutes les espérances, puisque les OFS, la création des OFS se sont multipliées un peu partout en France. Quand vous interrogez vos collègues maires de ville, est-ce qu'ils partagent le même engouement, le même enthousiasme que vous? Puisque vous l'avez dit très justement, je reprends vos mots, un logement digne, un logement décent finalement, parce que vous luttez en permanence contre les passoires thermiques, contre le logement indigne, et je sais que ça vous touche particulièrement. Est-ce que vos collègues aujourd'hui partagent le même sentiment? Ils ont aujourd'hui la même direction de vue?
Oui, en fait, la plupart des maires que je connais sont conscients de cette difficulté, de cette pénurie. Et heureusement qu'ils le sont. Et du fait que le logement est la sécurité première. Il y a la question de l'emploi, mais la sécurité première pour les ménages. Donc avoir un toit, c'est déjà pouvoir constituer sa vie, sa famille et préparer son avenir. Et un logement, un toit décent en plus. Donc très clairement, en fait, on est très engagé dans ce domaine-là, avec les moyens qui sont les nôtres en tant que maire. Là-dessus, en fait, l'offre de BRS, en fait, je viens là-dessus parce que on a bien vu beaucoup de maires. Des Yvelines, en fait, sont venus nous voir, en fait, ont appelé l'OFS, en disant, mais moi, je suis preneur d'avoir des BRS sur le truc.
Et bien sûr.
Et même parfois pour essayer de sortir certaines opérations immobilières qui étaient parfois un peu mal engagées. Sur lequel il y avait des problèmes de financement sur nos choses. On était parfois un peu une sorte de la roue de secours, en fait, le cri.
Ça a pu débloquer certaines opérations qui étaient un peu larges.
Parfois, ça a pu débloquer certaines opérations qui étaient un peu compliquées à mener. Donc, et là, on en est assez fiers parce que c'était la plupart du temps dans des communes qui sont soit déficitaires, soit carencées sur la loi SRU. Donc, en fait, on est venu en aide aux maires. Certes, mais également en fait aux futurs habitants de ces villes-là. Donc, clairement, les élus ont conscience de cette question, de cette crise du logement, de ces crises. Parce que je pense qu'on peut dire qu'il y a
vous avez raison de le dire, absolument.
Et puis conscience qu'il y a des produits qui peuvent les aider. Le BRS n'est pas l'alpha et oméga de la crise du logement, mais néanmoins, il y contribue.
Mais c'est vrai que vous avez rappelé finalement, et c'est très juste, parce que je rappelle que le bail réel et solidaire, c'est la dissociation entre le foncier et le bâti, bien évidemment. Et d'ailleurs, vous avez une politique très offensive sur le plan financier, puisque la redevance foncière aujourd'hui, elle est extrêmement faible. Je crois qu'elle est d'un euro du mètre carré, me semble-t-il. Et donc, du coup, finalement, vous avez une chevillée au corps, entre guillemets, ou chevillée à l'OFS, l'idée de permettre l'accès au plus large nombre, bien évidemment. Mais en même temps, Olivier Lebrun, il vous faut du foncier. Et à la limite, vous savez, pour le diffus comme pour le public, le foncier reste aujourd'hui, là pour le coup, l'alpha et l'oméga, c'est un peu l'or noir des villes et des municipalités. Et vous vous heurtez également, alors on se heurte ou on se dit finalement on l'a accepté, avec un zéro artificialisation net qui vous contraint en plus de l'impact normatif dans vos processus de construction. Alors, très franchement, comment, quand on est un élu local, avec parfois ces injonctions contradictoires auxquelles vous faites face tous les jours, vous arrivez à trouver finalement des friches foncières, des fonciers, avec un outil comme l'OFS qui est très volontariste sur cette question?
En fait, ça va évidemment dépendre de la typologie de la ville. Pour Viroflay, on est une ville qui est extrêmement... concentré, en fait, qui est coincé entre Versailles et Chaville.
Vous êtes très dense.
Deux forêts au sud et au nord. Des contraintes ABF, acheter des bâtiments de France très fortes parce qu'on a le château de Versailles à côté. Donc on peut pas non plus avoir des hauteurs de construction trop importantes. Et ça, j'allais dire, la population ne souhaiterait pas non plus avoir des immeubles trop hauts. Et donc en fait, il faut faire avec. Et donc là, on n'a plus de foncier disponible, quasiment plus. Tout ce qu'on a pu mobiliser, on l'a fait jusqu'à présent. Et donc là, on est plutôt dans une phase de renouvellement urbain, en quelque sorte, et de reconstruire la ville sur la ville.
Est-ce qu'il y a justement il y a des friches industrielles, foncières, de bâtiments obsolètes qui pourraient être, soit on pourrait leur donner une seconde vie, mais également la possibilité de se dire que là, on a encore du potentiel. Vous avez évoqué un sujet, Olivier Lebrun, qui est très important. Et j'aimerais avoir votre avis. Vous avez dit, les habitants n'aiment pas que ce soit trop haut. J'ai bien entendu le mot haut. Or, aujourd'hui, la verticalité, on en parle de plus en plus, versus les problèmes de densité, de contraintes d'artificialisation... comment vous arrivez à gérer cette situation, mais aussi avec les collègues du département, bien évidemment. Oui.
On n'y arrive pas. C'est une boutade, mais en fait, on est un PLU. En fait, toutes les communes sont dotées d'un PLU. Il y a un PLU qui est la plupart du temps négocié avec l'État. On définit la volonté des élus locaux dans le PLU. Et après, l'État nous dit, ben là, ça va pas. Donc, il y a une forme de négociation. Donc, pour arriver à trouver le bon équilibre de l'acceptation, en tout cas, bien des sûr. Nouvelles règles d'urbanisme avec nos habitants et en fonction de ce que nous, on connaît de la ville. Les élus sont les premiers à connaître parfaitement la ville. Moi, j'habite Viroflay depuis 1970, vous voyez. Donc, ça fait 54 ans que j'habite Viroflay. Donc, je connais très bien la ville et je pense savoir à peu près comment la ville doit pouvoir évoluer. Donc c'est un point essentiel au niveau de l'État c'est un peu différent en fait et même s'il y a des injonctions il faut pouvoir en fait expliquer ces choses-là. Donc de ce côté-là, bon, on est à Viroflay, on a encore quelques poches de logements vétustes, je ne vais pas dire insalubres, mais vétustes, et c'est celles-là qu'on a visé
à régénérer.
Voilà, à régénérer. Donc on a visé en premier en fait pour les opérations qu'on a pu faire précédemment. Et puis les prochaines, il y a encore des poches. Mais vous voyez, il y a justement un îlot sur Viroflay. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il y a eu un projet immobilier dessus. Ça s'est cassé la figure. Il y a des contraintes foncières, des commerces en rez-de-chaussée. Il y a des années d'éviction à calculer. Donc et tout cela, chacun voyant son propre intérêt pour essayer les propriétaires de fonds de commerce pour essayer d'en retirer évidemment le maximum.
Bien sûr.
C'est un patrimoine, donc on peut le comprendre, mais tout ça est rarement compatible avec la sortie d'opérations à des prix maîtrisés.
Oui, et qui sont, et d'ailleurs, merci de le dire, c'est très important, parce que ce que vous dites, et vous parlez d'or, puisque la sortie, c'est le prix de sortie, c'est vraiment là que le sujet et que le bât blesse. Et d'ailleurs, vos collègues dans les provinces, en France, sont soumis à la même règle. On n'a pas le même prix, à l'évidence, du mètre carré à Viroflay que l'on l'a, par exemple, hier j'étais avec le maire de Saint-Dizier, où on est entre 937 et 1 700 € du mètre carré, vous imaginez. Ça ferait rêver à Viroflay, bien évidemment, où on est sur un autre sujet. D'ailleurs, on a parfois un prix du foncier qui est supérieur au prix de la construction, donc c'est un vrai sujet. Et pourtant, les coûts des matériaux sont les mêmes.
Oui.
Et donc, du coup, on arrive à cette équation. Justement, se pose l'équation de l'accession, vous avez parlé de l'accession sociale à la propriété, d'une population qui se voit parfois un peu plus reléguée sur des villes report, on peut le dire, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger dans des villes qui prennent de la valeur, justement. Est-ce que cette crainte de la gentrification, finalement, c'est quelque chose qui vous pose question dans la mixité des populations parmi vos administrés?
Oui, moi ça me pose question parce que je le vois bien, en fait. Moi, j'ai des enfants. Et pour pouvoir acquérir, en fait, parce qu'on a une logique plutôt de propriétaire dans la famille, mais pour pouvoir acquérir, c'est compliqué d'acquérir sur Viroflay. Et donc, en fait, ils sont mis en location d'abord, en fait, sur Paris. Et puis après, peut-être que les acquisitions se feront de façon un peu plus lointaine sur le territoire. Donc, et on a tous, en fait, je parle de mes enfants, mais il y a plein d'autres personnes, en fait, qui ont du mal à se loger, à loger leurs enfants. Et puis, beaucoup de professions ont besoin d'être à proximité de leur lieu de travail, les professions notamment d'aide à la personne. Si on a des personnes qui font une heure et demie de transport en commun pour venir faire d'aide à la personne, en fait, sur les personnes âgées notamment, en fait, ça devient infernal. Et donc, rapidement, en fait, ça peut pas tenir, en fait, ce modèle de société. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à loger les gens pas trop loin de leur lieu de profession, en fait, de travail. Et donc, c'est cette dimension-là qu'il faut arriver à trouver. Et donc, on est aussi en première ligne pour arriver à gérer ces équilibres-là et à proposer des solutions. Donc, le logement social, le traditionnel, il est nécessaire. Et puis, arriver à trouver des personnes qui ont envie de rester sur la ville, ont envie de s'y installer. Et puis, vous savez, entre propriétaire et locataire, on n'a pas forcément le même rapport au bien dans lequel on réside. Donc en fait, le fait des propriétaires, en fait, on prend un peu plus soin du bien, on s'implique souvent davantage dans la ville. Donc en fait, nous, on est preneurs au niveau des élus, en fait, d'avoir une population plutôt propriétaire. Et il y a des pays qui ont travaillé là-dessus, hein. Beaucoup de pays européens, depuis des années, en fait, travaillent sur le fait davantage d'avoir une population de propriétaires plutôt que de locataires. Et c'est d'autant mieux que lorsqu'arrive le moment de la retraite, les revenus baissent et le loyer, lui, ne baisse pas. Donc ça veut dire que lorsqu'on a pu payer tous ces emprunts...
Vous avez fondamentalement raison, puisque c'est de l'épargne inversée, puisque à chaque fois que l'on paye la traite ou le crédit, on met de l'argent de côté lorsqu'on achète de l'immobilier. Et loin d'idée, parce que j'aimerais bien qu'on déconstruise aussi un peu la mythologie de l'idée de faire la culbute parce qu'on fait une opération immobilière sous sa résidence principale, c'est avant tout une action patrimoniale, vous l'avez rappelé très justement Olivier Lebrun, à la retraite, quand on a finalisé et qu'on est chez soi, on a la possibilité de revendre, d'avoir un capital pour éviter la chute de revenus, parce que vous avez raison, à la retraite, on a quand même une chute de revenus avec un revenu de remplacement qui baisse de plus de 30%, ce qui est quand même pas neutre, et c'est un vrai sujet. Vous avez rappelé également, et ce sera ma dernière question, le rapport entre l'emploi et le logement. C'est fondamental. Et vous le vivez d'ailleurs, Olivier Lebrun, au quotidien avec vos collaborateurs aussi, parce que vous avez une activité, il faut le rappeler aussi, professionnelle, parce que je rappelle quand même que les élus sont des vrais engagés dans la citoyenneté. Et bien évidemment, on a vraiment besoin de vous. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait que le mandat de maire est certainement le plus beau mandat politique qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et c'est vrai. Est-ce qu'on arrivera, Olivier Lebrun, est-ce qu'on peut arriver politiquement, avec une vraie philosophie politique et républicaine, à résoudre cette équation entre le logement et l'emploi pour tous? Est-ce que on n'est pas finalement parfois obligé de composer de fait que, je prends certains exemples de certaines communes, pas celles du département, mais je prends par exemple le cas de Paris, qui perd l'équivalent de 10 000 habitants par an à cause justement de la cherté du logement?
En fait, je vais avoir du mal à répondre à votre question précisément, mais clairement, on voit qu'il y a des tentatives au niveau national ou régional d'essayer de rééquilibrer en fait les zones d'emploi, les zones de logement. Mais ceci étant, je prends l'exemple de Viroflay. On avait un certain nombre d'entreprises qui étaient à Viroflay, qui avaient leur siège social à Viroflay, et en fait dans des murs qui leur appartenaient, et en fait qui sont partis de Viroflay, soit parce qu'ils ont fermé, soit parce qu'elles sont installées dans des grands pôles d'emploi. Et donc, en fait, on a de moins en moins d'entreprises, et la politique nationale fait que on nous pousse de plus en plus à construire du logement au détriment de l'activité. Donc, ce qui fait que progressivement, oui, en fait, on se retrouve avec une ville où, lorsqu'on a des actifs qui y travaillent, ces actifs font vivre les commerces, font vivre la ville au quotidien. Si on n'a plus d'actifs dans la ville au quotidien et que les actifs vont travailler ailleurs, en fait, on se retrouve avec une ville qui a plutôt
une ville dortoir.
Donc, et il faut arriver à garder cette équipe. Donc, ça fait partie de ces différentes injonctions contradictoires auxquelles on doit faire face. Et moi, ça me sidère toujours, en fait, de voir que on est amené à transformer des logements, des mètres carrés de bureaux en mètre carré de logement. Il y a encore une opération qui va se faire à Viroflay, entièrement en logement social, là, pour le coup. Mais voilà, il y a cette difficulté, en fait, à faire les deux. Alors, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et le logement à côté de son emploi, à côté ou à proximité, à moins d'une demi-heure de transport, c'est l'idéal. Il faudrait vraiment avoir une politique qui permette de faire ça.
Absolument. Vous avez absolument raison. Et je pense que c'est digne d'être une cause nationale pour le logement dans notre pays. Merci beaucoup, Olivier Lebrun. Je rappelle que vous êtes le maire de Viroflay depuis 2005. Alors, j'allais presque vous demander ou vous poser la question, est-ce que vous allez vous représenter en 2026? Je réserverai cette question lorsque on vous aura, si vous avez la possibilité d'y être au Salon des maires que nous animons la semaine prochaine. Je rappelle également que vous êtes le président de l'Office foncier solidaire des Yvelines. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Sylvain.
Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.